ETI Radio, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprises de taille intermédiaire, co-animée par Alain Marty et Richard Fremder, en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur, le groupe Ener, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnelles et Financière de Courcelles.
ETI Radio, c'est parti pour un nouveau numéro. Vous êtes plus de 43 000 dirigeants d'entreprise, abonnés à nos podcasts. Merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous le savez, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux, notre compte X, ETI Radio-TV. À mes côtés aujourd'hui, pour co-animer cette émission, Nicolas Lapeyre, directeur du développement de Généo Capital Entrepreneur. Bonjour Nicolas.
Bonjour à tous.
Et Quentin Gros, directeur Exco Finance et Transactions d'Île-de-France. Bonjour Quentin.
Bonjour.
Aujourd'hui, nous recevons Luc Gaillet, président de la Société Industrielle de Mulhouse. Bonjour Luc.
Bonjour.
Vous êtes ingénieur des ponts et chaussées après avoir fait Polytechnique. Vous aviez une idée de carrière déjà ou non? Vous avez fait des études sans trop savoir?
J'ai jamais eu d'idée de carrière parce que j'ai toujours considéré que le mot de carrière n'était pas un mot très sympathique. Ouais. Ça consistait à dire qu'on savait à l'avance ce qui nous intéresserait plus tard. Donc j'ai construit ma vie professionnelle étape par étape, selon les opportunités.
Comme ça se présentait. Et les idées. Oui. Vous avez démarré à la DDE, c'est ça?
Absolument, j'ai démarré la D2 du Haut-Rhin, j'ai eu la chance d'avoir une période de très gros chantiers, donc c'est assez ancien, c'était en 1975 et 83, à une époque où on a construit le réseau de voies rapides et d'autoroutes du Haut-Rhin et le prolongement de la piste de Balmulhouse.
Vous avez vu le département se construire, la région se construire?
Alors, on a accompagné des équipements liés à une période un peu dépassée aujourd'hui, puisque les modes de transport évoluent vers des modes de transport moins générateurs de CO2, mais on a construit une infrastructure qui fonctionne bien et qui accueille de plus en plus des voitures électriques qui ont un bilan carbone qui sont meilleurs que les autres.
Effectivement. Alors ensuite, contrôle de gestion, redressement de filiales, cadre dirigeant dans l'industrie. Vous avez constaté des changements sûrement dans l'industrie?
Alors, je suis de famille d'industriel du Nord dans le textile, et c'est pour ça que mes parents sont venus en Alsace. Et j'ai un affect très particulier pour l'industrie, et j'ai été, en quittant la DDE, face à des difficultés d'entreprise, successivement une affaire textile, d'impression textile dans la vallée de Tann, et la SACM sur le site de laquelle nous sommes. Et j'ai acquis dans cette période des convictions très fortes, qui me semble partagé de façon majoritaire depuis 5 à 10 ans en France. Donc je suis un défenseur de l'industrie manufacturière et un acteur du redressement d'entreprises en difficulté dans des secteurs manufacturiers, puisque j'ai fait de la mécanique, du textile, de la plasturgie, du caoutchouc et du papier. Et la dernière, juste puisque vous ne l'avez pas, elle apparaît rapidement sur le CV. Donc j'ai repris avec un associé une papeterie dans le Doubs qu'on a monté de 12 à 55 millions de chiffre d'affaires avec une très forte rentabilité et que j'ai cédé en décembre 2022.
Très bien, le papier, c'est pas forcément simple avec les prix du pétrole qui montent. C'est pas toujours évident.
Non, mais on apprend que en marketing, on disait dans le temps qu'il y avait deux grandes stratégies génériques, qui étaient une stratégie volume-prix et une stratégie de différenciation. Quand on est petit, la stratégie volume-prix ne s'applique pas. J'ai eu l'occasion d'en discuter avec des patrons de grandes entreprises qui m'ont dit « mais même quand on est gros, la différenciation est la bonne solution ». Donc nous, dans le papier, mais c'est une expérience que j'ai faite plusieurs fois, le choix a été de trouver une niche de marché. Nous étions une petite papeterie qui était extrêmement dans différents marchés, de choisir une niche sur laquelle, comme on dit souvent, les gros chiens ne vont pas dans les petites niches. Et nous avons choisi la niche du papier pour étiquette de vin, sur laquelle nous pensions que nous pourrions être dans les trois premiers mondiaux, et on a terminé comme leader mondial du papier pour étiquette de vin, avec, comme c'était de la spécialité, une très forte rentabilité.
C'est une excellente idée. Et puis alors, aéroport Balmulhouse aussi?
Ça, c'est une belle ETI, c'est une ETI publique que je préside aussi, qui est un établissement public franco-suisse, avec, je vais donner deux chiffres, l'an dernier 160 millions de chiffre d'affaires, 30% d'EBITDA, ce qui est un très beau ratio qui rend beaucoup de monde jaloux, mais nous sommes dans les infrastructures et le programme d'investissement des prochaines années est de plusieurs centaines de millions, donc il faut qu'on fasse un très fort EBITDA pour assurer les investissements. Alors juste au passage, un point très important qui a été abordé par d'autres dans des entretiens précédents, une attention extrêmement importante au pilier environnement du développement durable, et plus particulièrement à l'aéroport, mais c'est valable pour toutes nos entreprises. Je pense que le virage est assez récent dans beaucoup de boîtes. Nous, on essaye de le faire à fond, et à l'aéroport, c'est aujourd'hui la grande dominante, qui est de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, c'est pas simple dans l'aviation, et de réduire les nuisances sonores.
Effectivement, et pour terminer, donc, Société Industrielle de Mulhouse, qu'est-ce que c'est?
Alors, ça s'appelle société, mais c'est une association. C'est la plus ancienne association créée par des entrepreneurs pour développer l'économie et leur territoire en général. Donc, c'est une association qui a été créée par une vingtaine de jeunes entrepreneurs en décembre 1825, qui s'est ensuite développée, qui a été le creuset d'une histoire industrielle extraordinaire à Mulhouse, qui a été la ville de la première révolution industrielle avec du textile, de la machine textile, de la locomotive, de la chimie des colorants. Et c'est un travail en commun, donc on est quelque part le plus ancien technopôle français, avec un certain nombre de restes de cette période, et a été conservé en particulier un esprit de cohésion entre les entrepreneurs, dont le lieu dans lequel nous sommes cet après-midi, KM0, est aussi une illustration de ce travail des entrepreneurs mulhousiens qui savent travailler ensemble pour développer de nouveaux produits, conquérir de nouveaux marchés. Je conclurai sur ce point-là par la devise que nous avons actualisée de la CIM, qui est innovation, audace et ténacité. Innovation parce qu'il faut avoir de nouvelles idées, de nouveaux projets. L'audace parce qu'une fois qu'on a des idées, il faut avoir le culot de les mettre en œuvre. Et ténacité parce que je pense que c'est la vertu principale des entrepreneurs. Nous courons des marathons et nous essayons de courir avec nos équipes, des marathons en équipe.
C'est parfaitement résumé, mais on va voir le détail. Quentin.
Alors, vous êtes dans la région depuis très longtemps, depuis toujours. Vous avez vu différents métiers, toujours dans l'industrie. Mais moi, ce qui m'intéresse, ça serait de savoir, finalement, est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez des problématiques qui émergent ou des choses depuis quelques années qui n'étaient pas des problématiques il y a quelques années? Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, ça converge? Est-ce que les métiers convergent vers des problématiques communes, en fait?
Je pense qu'il y a énormément de convergence. Et si je regarde sur la durée, j'ai eu la chance de m'occuper de questions d'environnement déjà dans ma scolarité, dans mes études. Quand j'ai construit des routes, nous avions déjà intégré beaucoup de dimensions environnementales. Je suis un peu effaré de ce que nous aurons mis autant de temps à prendre en compte la dimension environnementale. Donc aujourd'hui, ça devient un impératif pour des raisons de dérèglement climatique et d'autres raisons. Je pense que c'est un vrai changement et qu'il faut l'intégrer complètement dans la totalité de la vie de nos entreprises. Le deuxième changement, je pense, qui est important, c'est le changement de l'attitude au travail. Alors, n'exagérons rien, moi je suis 68ard, tardif, hein, j'ai passé mon bac en 68, donc je peux dire que le nombre de jeunes qui n'avaient pas franchement envie de travailler de façon classique était plutôt plus important qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on assiste encore, mais c'est normal, d'une génération à l'autre. Moi, je pense qu'il ne faut pas catégoriser les gens par classe d'âge, mais il y a, d'une façon générale, une attitude qui est assez différente et il faut l'intégrer. Une entreprise, c'est d'abord une histoire de personne, c'est le facteur différenciant des entreprises. Oui, il faut un leader, il faut un manager, mais il faut surtout, à moins d'être dans une entreprise unipersonnelle, il faut entraîner des équipes, créer du projet collectif, et ça a toujours été le cas.
Nicolas.
La CIM est une vieille dame, hein. 1825, c'est ça que vous avez dit, Luc, ou
On nous dit 26 en général, puisque le gros du boulot de création était fait en 26.
Du coup, on est sur deux siècles d'existence, mais comment on fait en fait pour rester jeune après deux siècles? En fait, comment on fait pour garder l'énergie? Comment on fait pour réussir à fédérer encore les entrepreneurs du territoire qu'on a deux siècles? Ça, c'est une question moi, que j'aimerais vraiment qu'on pousse un petit peu là.
Alors, d'abord, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, donc c'est pas deux siècles de continuité d'énergie. Et objectivement, quand avec un certain nombre d'amis, dont Patrick, on a repris cette maison en 2010, on a pris la majorité au conseil d'administration, tout était à faire ou à refaire. Il fallait relancer beaucoup de choses. Et nous n'avons pas tout bien fait. Nous avons essayé de faire au mieux dans le contexte d'aujourd'hui. Mais les valeurs de départ que nous avons rebaptisées, hein, innovation, audace et ténacité, sont des valeurs fondamentales de la CIM et du territoire. Donc c'est un élément important. La notion d'intelligence collective, elle est depuis le début à la CIM. C'est un concept qui est ancien, mais on utilise le mot de façon forte depuis peu de temps. Ça a toujours été comme ça. Et la vraie vie, là aussi, travailler en équipe à plusieurs, oui, il faut encore une fois des leaders. Mais je prends souvent une formule pour illustrer différents types de management qui distinguent le management « je » et le management « nous ». je suis évidemment pour le management, nous. C'est une équipe et c'est l'une des forces sur la durée de la CIM. Et la particularité supplémentaire, c'est qu'on est un territoire un peu particulier. On est un territoire dans lequel c'est une grosse agglomération. Nous raisonnons aire urbaine Balmulhouse, qui fait 1 100 000 habitants, trinational. Donc c'est gros, c'est pas, c'est une belle taille. Dans laquelle il y a sur le côté français extrêmement peu d'administration. Il y a effectivement une ville et une aglo, mais on n'a pas la pléthore de strates que l'on peut trouver dans une grosse métropole. Et ici à Mulhouse, on arrive à avoir historiquement un rapport assez équilibré dans les questions stratégiques sur le territoire entre les collectivités et les chefs d'entreprise, à condition qu'on soit un peu regroupés. Et la CIM est l'un des lieux, il y en a d'autres aussi, qui rassemblent des chefs d'entreprise qui peuvent non pas consacrer tout leur temps, parce que c'est d'abord leur entreprise, mais consacrer un peu de temps au territoire et apporter un point de vue complémentaire par rapport à la vision des élus.
Vous parlez d'intelligence collective, mais il y a une autre intelligence dont on parle beaucoup en ce moment, c'est l'intelligence artificielle. Je pense que c'est un sujet important pour l'industrie qui vous est cher. Alors, j'aimerais bien avoir l'avis de Luc Gaillet et de, donc du coup en même temps porter la voix de la CIM sur l'intelligence artificielle et comment vous l'abordez aujourd'hui dans l'industrie.
Bonne question. Alors, on a incontestablement des applications. Alors moi, je ne sais pas à partir de quel moment c'est vraiment de l'intelligence artificielle, parce que il y a beaucoup de théories sur la chose. Bon, incontestablement, on a mécanisé les tâches manuelles pendant très longtemps. On n'est pas au bout de la mécanisation. Et on commence à automatiser un certain nombre de tâches intellectuelles. Et on va de plus en plus loin. Et incontestablement, les machines peuvent prendre le relais sur un tas de choses sur lesquelles elles ne le pouvaient pas auparavant. Quelqu'un a cité dans une autre émission Tesla. Et on peut prendre un tas de sujets sur lesquels la machine prend le relais. Et incontestablement, là où elle peut le prendre de façon efficace, on va le développer. Et nous sommes, alors c'est le « comment faisons-nous ?» Eh bien, et là, je suis sur des sujets que KM0 traite aussi. Hein, donc, on est sur. Moi, je suis pour la multiplicité des initiatives et les échanges entre les initiatives. Hein, c'est un peu comme ça que fonctionne notre territoire. Eh bien, ensemble, on regarde les applications que l'on pourrait mettre en place dans nos entreprises.
Voilà. Merci, Luc. Vous êtes brillant. Puis en plus, on a eu droit à un cours magistral merveilleux sur le marketing. C'est super. Merci également à vous, Nicolas et Quentin. Fin de ce numéro de TI Radio. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site et suivez notre actualité sur nos comptes X et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain, 14h précise, pour accueillir un nouveau dirigeant d'entreprise. Merci à tous.
L'invité de la semaine de ETI Radio, une production B2B Radio en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur, le groupe NR, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnelles et Financière de Courcelles.